soir.
8h16 sur Europe 1. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Christophe Guilluy, géographe, auteur du Temps des gens ordinaires chez Flammarion.
Bienvenue à vous et bonjour Christophe Guilluy.
Bonjour.
Vous avez théorisé il y a quelques années déjà la France périphérique, ce sont les invisibles, les oubliés. Que sont-ils devenus aujourd'hui?
Ce qu'ils sont devenus déjà, c'est qu'on les entend. On les entend beaucoup plus qu'on les entendait il y a 10 ans. J'allais dire qu'on ne peut plus parler de la France des invisibles. On ne peut plus parler des invisibles. Ils sont très présents, voire trop présents pour certains. Et ce qu'on observe aujourd'hui, et c'est pour ça que je parle de gens ordinaires plutôt que de classe populaire, comme je l'ai toujours fait, c'est la recomposition d'un bloc majoritaire qui aujourd'hui est en train de d'émerger un peu partout en Europe et aux États-Unis. Et finalement, ce bloc, il est en train de gagner une guerre de représentation qui est fondamentale, qui est une guerre de représentation culturelle.
Une guerre de représentation et une bataille culturelle, mais contre qui ou du fait de quoi il gagne, de l'effondrement de quelle autre culture ou quelle autre représentation il la gagne?
L'idée, c'est qu'effectivement, il y a toujours, même si je ne parle plus de genre ordinaire de classe en tant que tel, il y a un véritable conflit de classe. Il y a un haut, il y a un bas. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment frappant, c'est que vous avez des représentations du monde d'en haut qui ne correspondent plus du tout à ce qu'est la société. Et avec une vision toujours très technocratique, on va dire, très morcelée, très segmentée de la société. Et on ne voit pas que finalement, ce qui se passe depuis quelques années, c'est un processus qui vise à rendre visible de plus en plus ces catégories modestes.
Alors c'est l'une, Christophe Guilluy, des thèses essentielles et fondatrices de votre livre. Vous parlez d'un véritable groupe majoritaire, les gens ordinaires, qui a donc gagné une bataille culturelle, alors que l'archipélisation, la morcellisation de la France a été théorisée, qu'elle est même devenue une donnée de notre débat public et politique.
Oui, alors il y a deux choses, c'est-à-dire que moi j'ai travaillé depuis très très longtemps sur la question du séparatisme social, séparatisme culturel, les fractures géographiques, tout ça est très vrai. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui le processus est en train de se poursuivre? Est-ce que nous allons vers une décomposition totale de nos sociétés? Finalement, la mort de nos sociétés, c'est ça qu'indique finalement cette représentation très segmentée de la société. Ou est-ce que, au contraire, le corps social réagit? Et moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un décalage entre la vision finalement des élites, on va dire du monde d'en haut, très finalement publicitaire, parce que c'est très pratique finalement de penser en termes de segment.
C'est une forme de marketing publicitaire.
Oui, bien sûr. Et on le voit même dans les partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques font du marketing ethno-culturel. On peut dire ça comme ça, avec chacun a son petit segment. Et puis la question fondamentale qui est celle du commun, de est-ce que les gens, oui ou non, ont une réalité sociale commune, est passée à la trappe.
Mais attendez, expliquez-nous Christophe Guilluy, c'est très important ce que vous dites, parce qu'on entend quand même les valeurs répétées, la République, le commun, mais vous nous dites, il y a un intérêt, est-ce que la France reste morcelée pour certains, pour beaucoup?
C'est tout simplement la vision néolibérale. La vision néolibérale, j'allais dire, c'est le diviser pour régner, tout bêtement. On appuie beaucoup, j'allais dire aujourd'hui, sur cette division. Alors, non pas qu'il n'y a pas division, non pas qu'il n'y a pas conflits culturels, sociaux, etc. Mm-hmm. Tout ça existe. Mais on oublie une chose, c'est que les gens ordinaires, ils prennent en charge la réalité. Et quand on prend en charge la réalité, vous avez évidemment des solidarités imposées, vous avez effectivement des champs du possible qui se restreignent, vous avez aussi des localisations qui sont un peu différentes. Les gens ordinaires ne vivent pas là où vivent les catégories supérieures, et on le voit bien dans la segmentation et dans la fracture géographique. Et ça, c'est en train de se cristalliser. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens sont totalement atomisés. Au contraire, et on le voit, on l'a vu d'ailleurs dans les mouvements sociaux ces derniers temps, les gilets jaunes, c'était quoi? C'était une recomposition, c'était pas une décomposition du peuple.
D'ailleurs, vous dites davantage la France des ronds-points, véritablement.
Bien sûr. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que d'ailleurs les gilets jaunes c'était quoi? C'était des petites gens, des gens qui sont majoritaires en termes de, qui représentent la majorité de la population active, des employés, des ouvriers.
Mais est-ce qu'ils ont les mêmes aspirations? Parce que c'est ça ce qui est aussi frappant dans votre livre, Christophe Guilluy, c'est que ce bloc majoritaire, il a les mêmes aspirations. Un exemple, plus de sécurité notamment. Autre exemple, et qui est un peu encore tabou et pas politiquement correct, c'est que vous dites qu'il y a cette demande du bloc majoritaire pour une régulation des flux migratoires. Oui, ils ont les mêmes demandes.
Bien sûr, tout ça est très rationnel. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a une demande sociale, du travail. C'est quand même fondamental.
C'est la première demande, oui.
Les gens veulent travailler. D'ailleurs, du coup, ça impose dans le débat public des sujets que les élites ne voulaient pas traiter. Par exemple, quand on parle aujourd'hui beaucoup de réindustrialisation, de relocalisation, ce sont les gens ordinaires qui ont fait pression pour qu'on en parle. Et vous pouvez prendre toutes ces thématiques que les élites ne voulaient pas traiter, par exemple la question du séparatisme, par exemple la question de l'immigration, par exemple la question des flux. Toutes ces thématiques, en réalité, elles sont imposées par ce bloc majoritaire. Et ce qui est très important, c'est de dire...
C'est pour ça qu'il a gagné la bataille culturelle, c'est-à-dire qu'il a mis fin, en tout cas c'est ce que vous dites, à une société globalisée, libérale, libertaire, qui a totalement vécu.
La réalité...
Certains veulent
évidemment,
le croire, oui.
Évidemment que l'atomisation existe, y compris en milieu populaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'individualisme, les gens ordinaires n'ont pas les moyens de l'individualisme, tout bêtement. C'est-à-dire que elles vivent dans un monde où les solidarités sont contraintes, mais où elles existent. Et du coup, ça, quand on regarde ces catégories, on se rend compte d'une chose, qu'elles soient d'ailleurs dans la France périphérique ou en banlieue, et quelles que soient leurs origines,
ça, les gens ont besoin. C'est important. Hein, vous ne les divisez pas, vous ne les segmentez pas. C'est-à-dire pour vous, c'est un même bloc, mêmes aspirations, mêmes envies.
Mais bien sûr, il peut y avoir effectivement des fractures culturelles en interne, je ne suis pas complètement naïf par rapport à ça, mais quels sont les besoins? Les besoins, ils sont effectivement le travail, ils sont effectivement la question de la sécurité, hein, que ce soit en banlieue ou dans la France périphérique, et tout simplement parce que les gens veulent vivre tranquillement.
Mais alors Christophe Guélu, expliquez-nous, ce matin on vous entend bien, vous ne contestez pas qu'il y ait des fractures françaises, mais vous contestez davantage une véritable morcellisation en marche. Mais qui a intérêt? Un pouvoir qui maintient et surfe sur cela, c'est le risque d'une explosion sociale à tout moment, c'est jouer avec le
feu. C'est évidemment très très risqué, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas continuer à supporter un modèle et des représentations qui n'imprègne pas la société. Là, le décalage, on le vit actuellement. C'est-à-dire que vous avez finalement un monde d'en haut. Je parle toujours du monde d'en haut et non pas des élites, parce que en fait, c'est beaucoup plus large que ça, qui bénéficie du modèle néolibéral tel qu'il est aujourd'hui, et qui se dit, bon, jusqu'ici, tout va bien, nous allons tenir le plus longtemps possible. Mais c'est un calcul qui est perdant de toute façon, parce que aujourd'hui, vous avez des catégories populaires qui se sont désaffiliées les unes après les autres. Et vous ne pouvez pas faire société, vous ne pouvez pas avoir une classe politique représentative si vous ne répondez pas aux demandes, et ces demandes, elles sont sociales et culturelles.
Et pourtant, Christophe Guélu, depuis l'apparition de votre ouvrage, que de politique, et certains, je pense à Xavier Bertrand et d'autres, qui disent, mais formidable, les gens ordinaires, on voit bien qu'il y en a qui ont beaucoup envie de, voilà, d'être les porte-voix de ces gens ordinaires. Ça vous fait sourire, derrière le masque.
Non, mais tant mieux. Non, tant mieux. C'est-à-dire que après, je connais un peu le jeu politique. Ce qui est très important, c'est de bien comprendre que cette réalité, elle est totalement celle de l'ensemble des gens qui représentent la société et qui portent la société. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais...
Pendant la crise sanitaire,
exactement.
Alors, on y est encore, pendant le confinement.
Ça m'a beaucoup fait rire aussi.
Ce sont
aussi
les gens ordinaires qui ont porté la société.
Alors, c'était évidemment les gens ordinaires qui ont porté la société en France et en Europe et aux États-Unis. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir la manière dont on les a héroïsés. Et alors, avant, on les ostracisait. Maintenant, les héroïsent. On les a aussi beaucoup, alors d'abord stigmatisés, mais il y avait cette idée finalement de les essentialiser. Et moi, je dis toujours que vous pouvez être stigmatisé ou victimisé, ça c'est terrible aussi, ou héroïsé, ça veut dire que vous êtes essentialisé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne les prend pas au sérieux.
Oui, mais Christophe Guélu, en affirmant qu'il y a un bloc majoritaire populaire face à un bloc minoritaire, c'est-à-dire les élites ou les élites autoproclamées, c'est souvent le cas. Certains vont vous accuser, vous le savez, de populisme, tout comme ils l'ont fait d'ailleurs quand vous avez théorisé la France périphérique, on s'en souvient.
Mais évidemment, bon, je connais maintenant le jeu rhétorique. La question, évidemment, n'est pas ce qu'on appelle l'anti-élitisme, par exemple. Derrière, il y a l'idée de l'anti-intellectualisme. Sous-entendu, ces gens sont tellement stupides qu'ils sont capables de suivre n'importe qui. Et d'ailleurs, c'était très drôle comment la manière dont les médias ont mis en scène
Jean-Marie Bigard. Voilà.
Ces gens sont tellement crétins qu'ils peuvent aller, j'ai rien contre Jean-Marie Bigard, mais ils sont prêts à élire Jean-Marie Bigard. Je sais pas si vous voyez le mépris de classe qu'il y a derrière. C'est pour ça que je dis que la bataille, elle est vraiment fondamentalement culturelle. Et d'ailleurs, on l'a vu il y a pas très longtemps avec les sorties des écologistes sur, alors c'était Sapin de Noël, Tour de France, etc., etc. Et d'ailleurs, qui ont été rappelés à l'ordre par Jadot, qui a dit attention, là, vous êtes dans le mépris de classe. Et voilà, les fractures, elles sont en train de traverser l'ensemble des partis politiques. Et on sent bien que là, culturellement, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de gagner.
Et c'est ce que vous théorisez dans ce livre, Le temps des gens ordinaires, avec une véritable bataille culturelle qui est en train de gagner les esprits, pas ceux qu'on croit. Merci Christophe Guilluy, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir consacré votre première interview radio sur Europe 1. C'est chez Flammarion. Je vous souhaite une belle journée, ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h27.